Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment éviter les cauchemars? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 5 avril 2026 dans la presse. Un lecteur, Jean Pellerin, demande « Peut-on faire quelque chose pour éviter les cauchemars? Un aliment, un médicament, un exercice mental ou physique, un massage? » Cauchemar 101. Selon le DSM-5, la Bible de la psychiatrie, le cauchemar est un rêve prolongé dont on se souvient bien, qui provoque un profond sentiment de mal-être. Il aborde des thèmes menaçants, la survie ou la sécurité. Il faut donc le distinguer du mauvais rêve, dont on peut se souvenir le lendemain, mais qui ne nous réveille pas, précise le psychiatre Christophe Modori, professeur adjoint à l'Université de Montréal. Lorsque les cauchemars reviennent très souvent et dérangent beaucoup la personne qui les fait, on parle alors d'un trouble, le trouble lié au cauchemar. Fonction. Les rêves remplissent probablement plusieurs fonctions. Il permettrait notamment de consolider la mémoire et d'entraîner le cerveau à la survie. Le psychiatre Christophe Modori évoque les célèbres travaux du chercheur français Michel Jouvet. Normalement, lorsqu'on rêve, le cerveau paralyse le corps pour nous empêcher de vivre physiquement nos songes. En levant ce frein chez le chat, Jouvet a constaté que le félin mimait des comportements de chasse en plein sommeil. Les rêves serviraient aussi à métaboliser les émotions. Un rêve dérangeant peut donc s'avérer utile, résume Maxime Lukowski, psychologue clinicien du Centre universitaire de santé McGill. C'est le cerveau qui nettoie les expériences de la semaine, résume-t-il. Troubles de stress post-traumatique. Les cauchemars deviennent problématiques lorsqu'ils créent de la détresse, une appréhension au moment du coucher, voire de l'insomnie, note le psychiatre Christophe Modori. Chez certaines personnes, ils peuvent être le signe d'un trouble de stress post-traumatique. Les événements difficiles que les gens ont vécus reviennent dans les cauchemars, résume-t-il. Comme si le cerveau essaie de digérer, mais ça ne passe pas, ça revient sans cesse. Les cauchemars deviennent en quelque sorte la continuité du trouble, vécu le jour et la nuit, indique le psychologue Maxime Lukowski, qui a déjà travaillé auprès de réfugiés. Problèmes de santé. Les mauvais rêves récurrents peuvent aussi trahir la présence d'autres troubles du sommeil, comme la narcolepsie ou l'apnée du sommeil. Ils peuvent aussi être liés à différents problèmes de santé, à la prise d'un médicament ou d'un supplément, dont la mélatonine, ou encore au sevrage du cannabis, indique le docteur Modori. Lorsqu'on agit ses rêves, comme les chats dans l'expérience, ça peut être un signe précurseur de certaines maladies neurologiques. C'est donc important d'en parler à son médecin, indique le psychiatre. Ensuite, nous, on travaille sur ce qui reste, ajoute le psychologue Maxime Lukowski. Thérapie. Le traitement de référence contre les cauchemars chroniques est la thérapie par répétition d'imagerie mentale. Une fois par semaine, on rédige le scénario d'un rêve agréable. Il peut s'agir d'un rêve totalement imaginé ou de la version réinventée d'un cauchemar récurrent, transformé de manière positive. Chaque jour de la semaine, pour une période de 10 à 15 minutes, on visualise ce beau rêve en y ajoutant des détails comme des odeurs ou des sensations. Ça permet de diminuer la fréquence des cauchemars, indique le docteur Modori. Après avoir fait un cauchemar, on peut aussi l'écrire sur un bout de papier, qu'on détruit ensuite symboliquement. Mais pas plus qu'une fois par semaine. On ne veut pas passer tout notre temps à ressasser les cauchemars non plus, indique le psychiatre. Méditation, relaxation. Pratiquer la méditation de pleine conscience pendant la journée pourrait aussi être un allié des beaux rêves, selon Maxime Lukowski. Cela augmente les chances d'avoir des rêves lucides, lorsqu'on prend conscience qu'on rêve et qu'on peut influencer le scénario de nos rêves. À l'opposé, ruminer avant de dormir peut contribuer au cauchemar, indique par courriel Michelle Carr, chercheuse en sommeil à l'Université de Montréal. Pour les prévenir, on peut donc pratiquer la relaxation physique et mentale avant d'aller au lit, dit-elle, en relaxant ses muscles et en respirant calmement et profondément. Enfin, certaines personnes rapportent que manger tard le soir contribue aussi à l'apparition de cauchemars. Médication. Pour les personnes chez qui les cauchemars ont un impact majeur, les médecins peuvent prescrire un médicament, la prazosine. Ce médicament baisse la pression artérielle, mais aussi cette suractivation du système nerveux pendant le sommeil. Ça diminue la réponse de combat ou de fuite, résume le docteur Christophe Modori. Mais pour éviter de prendre de la médication à long terme, la thérapie est vraiment centrale, conclut le psychiatre, qui rappelle ceci. Les cauchemars sont un bon thermostat de notre état intérieur, et il est toujours sage d'écouter ces signaux que le cerveau envoie. C'était « Comment éviter les cauchemars », un texte de Catherine Hanfield, paru le 5 avril 2026 dans la presse.
le prix élevé des dérives de l'intelligence artificielle. En sous-titre, la tragédie de Tumblr Rich illustre les conséquences concrètes des politiques de laisser-faire. Un texte signé par le professeur Pierre Trudel, publié dans Le Devoir du 3 mars 2026. La tragédie de Tumblr Ridge est venue illustrer les conséquences très concrètes des politiques de laisser-faire en matière de technologie de l'information. À la suite des révélations selon lesquelles la tueuse de Tumblr Ridge avait eu des interactions avec ChatGPT, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Evan Solomon, a interpellé des représentants d'OpenAI afin d'en savoir plus au sujet des mesures de sécurité mises en place par l'entreprise. Au lendemain de la rencontre, Le Devoir rapportait que le ministre avait exigé de cette entreprise, citation, « des propositions concrètes, des actions concrètes, ellipse, en matière de seuils à partir desquels les protocoles humains et automatiques sont enclenchés pour appeler la police », fin de citation. Il est désolant de constater qu'il aurait fallu une tragédie de cette ampleur pour faire bouger les autorités. Pour l'heure, celles-ci s'en remettent à la bonne volonté des entreprises en espérant que leur souci de soigner leur image les incitera à coopérer avec ceux qui peuvent réduire les risques de tragédie. Les dirigeants fédéraux et ceux des provinces prennent leur temps pour imposer des obligations de transparence et de responsabilité aux entreprises qui déploient des dispositifs fonctionnant à l'intelligence artificielle. Les outils fonctionnant à l'IA peuvent permettre à n'importe qui de générer des images et des sons afin de produire de fausses informations. C'est sans compter les capacités de leurrer des enfants et même des adultes. Par exemple, il y a quelques mois, on apprenait que des vidéos de personnalités connues faisaient la promotion de prétendus placements au rendement miraculeux. Tout cela était faux et frauduleux. Des individus se sont fait avoir, certains ont perdu leurs économies et leur dignité. L'intelligence artificielle permet ce type d'arnaque. Pour certains, ce sont les victimes qui seraient à blâmer. On n'a pas mieux à leur répondre que de leur reprocher d'avoir été imprudente. Il est utopique de s'imaginer que les individus peuvent seuls se prémunir contre les usages malveillants de l'intelligence artificielle. Les dispositifs fonctionnant à l'IA sont présents dans un vaste ensemble de ressources disponibles en ligne. Tous les environnements numériques sont concernés par la multiplication des dérives alimentées par l'IA. Par exemple, l'équipe de l'émission Les Décrypteurs nous apprenait le 25 février dernier que YouTube agissait peu face aux fausses nouvelles, souvent générées grâce à l'IA, qui pullulent dans ce qui est devenu la principale source de vidéos en ligne. Les lois canadiennes sont muettes ou au mieux vagues quant aux obligations incombant aux entreprises qui déploient des dispositifs d'intelligence artificielle. Dans quelle mesure doivent-elles alerter les autorités lorsque des renseignements sur de possibles menaces viennent à leur connaissance? Quelles précautions devraient être mises en place afin de prévenir les usages dangereux de technologies aussi puissantes? Qu'il s'agisse de réglementer les applications d'intelligence artificielle, de créer des espaces en ligne plus sûrs pour tous, ou de prendre en compte les effets des procédés de falsification de l'information sur le discours public, la nécessité de la mise en place de mesures de protection réfléchies et efficaces n'a jamais été aussi criante. Ne pas brider l'innovation? L'un des arguments qui reviennent souvent pour s'opposer à la mise en place de réglementations afin de prévenir les dérives des dispositifs comme ceux fonctionnant à l'IA est la nécessité de ne pas brider l'innovation. Contrairement à la plupart des gouvernements de la planète, le gouvernement fédéral américain s'oppose à toute législation sur l'IA car il croit que cela viendrait freiner l'innovation, source de prospérité. Cela n'a pas empêché la Californie et d'autres États américains de mettre en place des lois afin de préciser les obligations incombant aux entreprises qui utilisent et mettent à la disposition d'autrui des ressources carburant à l'intelligence artificielle. Mais comment expliquer la lenteur des autorités canadiennes à mettre à niveau nos lois et leurs mécanismes d'application afin de faire face aux dérives que l'IA facilite, Est-ce que la politique d'aplamentrisme devant l'intimidateur qui règne à la Maison-Blanche l'emporte sur l'impératif qu'est la prévention de fraudes ou de tragédies comme celle de Tumblr Ridge? L'intelligence artificielle est porteuse d'innovation, mais comme toute technologie, elle peut être utilisée de façon malveillante. Ses capacités peuvent être mobilisées pour forger de fausses images et des sons factices ou pour générer des renseignements à la demande de personnes qui ont des intentions criminelles ou suicidaires. Et tout cela sans compter les messages racistes, homophobes ou misogynes diffusés en ligne. C'est pour cela que les lois viennent imposer des obligations à ceux qui utilisent des objets pouvant se révéler dangereux. Le site d'information MediaPolicy.ca rapportait dans son édition du 26 février dernier les résultats d'un sondage léger commandé par un groupe canadien dirigé par la mère d'Amanda Todd, une victime de cyberharcèlement. On y apprend qu'il y a un fort taux d'appui à des mesures contre les méfaits en ligne. Le sondage révèle un taux élevé d'inquiétude au sujet des contenus susceptibles de créer une dépendance ou autres contenus nuisibles, ainsi qu'un soutien élevé à une réglementation, 90%, mise en œuvre par un organisme indépendant, 79%. Le soutien à la réglementation des outils d'intelligence artificielle, en plus des applications sociales, est aussi important, 75%. Les risques que les dispositifs en ligne propulsés par l'IA font courir aux populations sont multiples et de plus en plus considérables. C'est pourquoi les universitaires, experts de ces technologies, rappellent que la véritable innovation est celle qui respecte les précautions nécessaires pour protéger les populations. Le retard des autorités canadiennes dans les positions d'obligation de transparence aux entreprises qui proposent les dispositifs en ligne a un prix. Et ce prix est payé par les victimes des abus rendus possibles par les carences touchant les outils en ligne calibrés en fonction des seuls intérêts commerciaux des géants d'Internet. Fin de cette chronique de Pierre Trudel titrée « Le prix élevé des dérives de l'intelligence artificielle », texte publié dans Le Devoir du 3 mars 2026.
Le mythe des règles synchronisées, un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 mars 2026 dans la presse. Une lectrice, Marie-Ève Leduc, demande « Est-il vrai que le cycle menstruel d'amis proches se synchronise ?»« Non », affirme une chercheuse américaine qui a publié plusieurs études sur le sujet. Quelques chercheurs ont publié des études affirmant que les règles des femmes, qui sont émotionnellement proches, se synchronisent dans les années 1970 et plus récemment dans les années 1990, explique Beverly Strassman de l'Université du Michigan à Ann Arbor. Mais il a été bien démontré que ces recherches avaient des problèmes méthodologiques importants. La première à avancer cette théorie a été Martha McClintock de l'Université de Chicago. Elle a tout d'abord publié cette conclusion en 1971 dans Nature, après avoir analysé les cycles menstruels de 135 étudiantes universitaires avant de publier d'autres études faisant état d'un phénomène similaire dans les prisons pour femmes et sur un possible effet des phéromones. Dans les années 1990, deux chercheurs israéliens, Leonard et Aaron Weller de l'Université Bar-Ilan, ont publié une demi-douzaine d'autres études montrant la synchronisation menstruelle d'amis. Ils ont précisé qu'il fallait que ces amitiés soient émotionnellement proches et pas seulement en colocation. Cette thèse a été adoptée sans un regard critique parce qu'elle faisait écho à un mouvement féministe de sororité, mentionne Beverly Strassman. Trois grands problèmes minent ces études, affirme Madame Strassman. Tout d'abord, mathématiquement, des femmes ayant des cycles de durée différentes auront régulièrement leurs règles au même moment, du moins pour le premier jour. Ensuite, il y a des imprécisions dans le moment du cycle menstruel utilisé comme point de comparaison. De plus, des participantes au cycle irrégulier ont été exclues. Ces critiques ont été pour la première fois décrites en 1992 dans Psychoneuroendocrinology par H. Clyde Wilson de l'Université du Missouri, aujourd'hui décédé. toutes les études concluant à une synchronisation des cycles menstruels d'amis ont l'un ou l'autre de ces problèmes, dit Mme Strassman. Prenez deux femmes dont les cycles ont 28 et 32 jours. Naturellement, le début de leur cycle sera synchronisé environ une fois par année. L'influence des phénomènes sur l'humain n'a par ailleurs jamais été démontrée de manière concluante, selon Mme Strassman. L'organe qui permet aux animaux de percevoir les phéromones n'existe pratiquement plus chez l'humain, dit-elle. De plus, pour qu'une telle synchronisation existe, il faut qu'elle ait un avantage sur le plan d'évolution. On a avancé qu'elle permettait à des amis ou à des femmes d'une même famille d'accoucher à peu près en même temps, dit Mme Strassman. Ce n'est pas clair que c'est un avantage. Et surtout, jusqu'à tout récemment, les femmes en âge de procréer avaient très peu de règles. J'ai fait ma thèse de doctorat au Mali chez les Dogons, qui étaient très peu touchés par le monde moderne. Ils n'avaient pas d'électricité ni de contraception artificielle. Les femmes avaient quelques menstruations, puis avaient des enfants en continu, donc des règles une fois tous les deux ans. Quel est l'avantage d'une synchronisation des règles dans une telle société? Le stress ne peut-il pas causer l'arrêt du cycle menstruel? Oui, il peut y avoir une aménorrhée dans une situation de violence physique ou psychologique, mais ce n'est pas du tout le même phénomène. Martha McClintock, Leonard et Aaron Weller n'ont pas répondu aux questions de la presse concernant leurs travaux. En savoir plus, 14%, c'est la proportion des Néerlandaises nées entre 1935 et 1945 qui ont eu plus de 500 cycles menstruels durant leur vie. 22%, c'est la proportion des Néerlandaises nées entre 1935 et 1945 qui ont eu moins de 400 cycles menstruels durant leur vie. C'était « Le mythe des règles synchronisées », un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 mars 2026 dans la presse.
Le réseau scolaire du Québec est encore à l'école des saints. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir. Une école québécoise sur trois, soit 750 des 2370 établissements publics et 200 privés, porte le nom d'un saint, d'une sainte ou d'un groupe sanctifié, la Sainte Famille, les saints martyrs canadiens. Il faut ajouter les autres innombrables références religieuses de Notre-Dame à Jean Eudes. Du point de vue de la toponymie, la déconfessionnalisation du réseau scolaire reste une très grande illusion. À lui seul, Saint-Joseph a droit à 60 mentions dans la banque de données du ministère de l'Éducation. Son fils putatif, Jésus, s'y retrouve comme enfant, comme adulte, avec sa mère porteuse, Externa, mon Jésus-Marie, par son Sacré-Cœur et son Saint-Nom, deux fois. La maman du Dieu incarné apparaît elle aussi en plusieurs déclinaisons. En reine du clergé, comme Sainte-Marie, une dizaine de fois, par son Saint-Cœur, en médiatrice ou en Regina Assumpta. L'impériale agionomie, le fait de désigner quelque chose du nom d'un saint, vaut pour toute la toponymie québécoise. Le territoire compte aussi plus de 500 municipalités sur environ 1125, dont le nom commence par « saint » ou « sainte ». Dans le Lot, il y a Sainte-Apolline de Patton, dans Chaudière-Appalaches, qui honore une martyre morte en 249 à Alexandrie, et sa voisine régionale Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud, nommée en l'honneur d'une mégalomartyre native de Calcédoine, maintenant une banlieue d'Istanbul, morte décapitée après de nombreuses tortures en 305. Mais cette affirmation ultra-dévote, plongeant ses références sur 2000 ans et jusqu'à l'autre bout du monde, signale en même temps la négation de beaucoup d'autres possibilités de reconnaissance par le nom des lieux. Le système scolaire québécois boude ainsi très largement ses refondateurs de la Révolution tranquille et les rejetons les plus admirables de son activité pédagogique, ses artistes, ses gens de lettres, ses scientifiques, ces gens engagés dans le monde sociopolitique. Paul Gérin-Lajoie, qui a été le premier ministre de l'Éducation dans les années 1960, a trois établissements. Monseigneur Alphonse-Marie Parent, qui a dirigé la commission de réforme du système de l'éducation, a une école à son nom à Longueuil. Et c'est tout. Aucun des membres de la commission ne jouit de cet honneur, pas même le sociologue Guy Rocher, décédé en 2025. Par contraste, en France, la mémoire de Jules Ferry, fondateur dans les années 1880 de l'école laïque, gratuite et obligatoire, est honorée par 624 écoles, collèges et lycées, soit plus d'un établissement sur 100 de la République qui en totalise environ 58 500. La seconde place de la nomenclature revient à Jacques Prévert, commémoré 375 fois. Cette faveur s'explique par la popularité du poète au moment de la construction massive d'écoles, après le baby-boom qui a suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un effet paroissial. Je trouve savoureux l'exemple de Jacques Prévert, raconte la professeure d'histoire Brigitte Collier, éduquée en France. Chaque jour, on avait une récitation d'un de ses poèmes. Il fallait les calligraphier dans nos cahiers et faire un beau dessin pour l'illustration. Prévert est devenue la grande idole littéraire des enfants. Elle lisait et illustrait ses poèmes à l'école primaire portant le nom de sa petite ville de la banlieue de Paris. L'établissement a été rebaptisé plus tard en l'honneur de Robert Doisneau, photographe humaniste mort en 1994. Madame Collier a rencontré un Québécois pendant ses études doctorales, a immigré et est devenu professeur spécialiste de l'histoire socio-religieuse du Québec à l'Université Laval. Elle rappelle que, ici, la confessionnalité du nom des écoles s'explique par leur rattachement d'origine à une entité paroissiale. L'école publique portait le nom du saint patron de sa paroisse, dit celle qui a récemment piloté l'élaboration d'un atlas historique du Québec portant précisément sur les écoles, paru aux presses de l'Université Laval en 2023. J'aime faire le parallèle avec les caisses populaires qui ont aussi pris le nom des paroisses, dit-elle. La forte densité agionymique des villes et des villages est aussi le résultat de la constitution de municipalités au 19e siècle appuyée sur la dénomination des paroisses, alors centrale dans la vie des communautés. Les anciens établissements scolaires employaient d'ailleurs des instituteurs et des institutrices de communautés religieuses qui pouvaient chérir les références aux héros de leur monde spirituel. On peut aussi parfaitement comprendre certains établissements de vouloir conserver leur prestigieuse marque de commerce. Qui voudrait sérieusement changer le nom de l'École des Ursulines de Québec, fondée en 1639, ce qui en fait une des plus vieilles des Amériques, ou du Collège Jean de Brébeuf de Montréal, qui compte parmi ses diplômés Robert Bourassa, Pierre-Éliott Trudeau, le juge Richard Wagner, Jean Coutu et Hubert Reeves. Viva Mexico! L'autrice Chantal Ringuet préfère comparer le Québec au Mexique, autre société marquée par la religion, mais dont la composante autochtone est beaucoup plus forte. Les Mexicains ont conservé des noms de saints et aussi des noms autochtones, dit la touche-à-tout de la culture, qui a écrit sur Leonard Cohen, traduit des textes du yiddish et récemment imaginé une carte du métro de Montréal au nom de station entièrement au féminin. C'est déplorable qu'on ne bouge pas plus ici. Je ne pense pas que beaucoup de personnes regretteraient aujourd'hui de voir disparaître certains noms de l'espace public. Lesquels? Pie IX. Une école montréalaise et un boulevard majeur honorent ce pape réactionnaire par excellence du 19e siècle, finalement contre tout progrès, du féminisme à la démocratie. Lionel Groulx, le chanoine historien, a droit à un cégep et à une station de métro malgré ses positions antisémites et misogynes. Le débat public est important dans toutes les questions de toponymie, enchaîne Madame Ringuet, sans prendre position sur ces deux noms. Il faut réfléchir ensemble pour avancer sur ce terrain miné. Jusqu'à quel point peut-on réécrire l'histoire et comment adapter la mémoire en suivant l'évolution de la société? En tout cas, moi, je suis vraiment pour qu'on change certains noms d'établissements scolaires et de rues. Au Québec, une douzaine d'écoles du primaire et ou du secondaire rendent hommage à Félix Leclerc, parfois par la dénomination de l'immeuble d'un campus. C'est l'exception qui confirme la règle générale de l'oubli et de la négligence des vedettes culturelles. Gabriel Auroi a quelques mentions et a la reconnaissance d'une poignée de bibliothèques. Anne Hébert n'est honorée qu'une fois par le réseau scolaire québécois. Leonard Cohen ne l'est pas. Il y a moins de monde et de création d'écoles depuis des décennies, mais ça n'excuse pas de ne pas choisir des patronymes dans la vie culturelle, les noms des créateurs, des auteurs, et des créatrices encore plus, dit la professeure Brigitte Collier. Évidemment, ce qui est vrai pour les hommes tient encore plus pour les femmes. Beaucoup d'écoles des dernières décennies ont reçu des noms fleurs bleues, de l'envolée et autres tournesols. Les désignations des garderies reflètent aussi cette vision bonbon et gna-gna de l'enfance. Le ministère de l'Éducation explique dans une réponse par courriel que la responsabilité du nom des écoles incombe au centre de services scolaires. À l'évidence, les constructions neuves font plus d'efforts pour reconnaître des créateurs remarquables. Une nouvelle école secondaire de Saint-Jérôme rend ainsi hommage à Gaston Miron depuis 2023. Charles Ringuet soulève en terminant la lourdeur administrative du processus menant à une nouvelle désignation, qu'il s'agisse d'une école ou d'une rue. Ça prend énormément de temps avant d'obtenir un consensus. Je note aussi que ces comités de toponymie ont tendance parfois à élire des gens un peu conservateurs qui veulent conserver tous ces noms de saints. Pourtant, on en a tellement qu'on pourrait en larguer. C'était « Le réseau scolaire du Québec est encore à l'école des saints », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir.